Ce matin, nous allons lire dans le psaume 1,
versets
1 à 3, et nous allons parler du fait de porter du fruit. Porter du fruit. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen.
Ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticara n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi byagezwe byiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mu ijoro. Azoba n'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cyama mu gihe cyacu, ibibabi byacu nibyuma, icakoze ko cyose kimuberako.
Il y a trois passages dans l'Ancien Testament, au moins trois passages en tout cas, qui comparent l'homme à un arbre et à un arbre qui porte du fruit. Ça, c'est le premier passage. Il y a aussi le passage de Jérémie 17 que nous allons voir tout à l'heure, et encore le passage de Ésaïe 61 qui nous parle du fait que l'homme est comme un arbre. Et ici, il est dit que l'homme qui porte du fruit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen. Tout le monde a besoin d'être un arbre planté près d'un courant d'eau. On parle de sécheresse. On parle aussi de vie. On parle de rafraîchissement. Le fait d'être planté près d'un courant d'eau. Et bien sûr, ce courant d'eau, c'est l'image du mouvement du Saint-Esprit qui permet à notre vie de puiser cette substance, cette subsistance qui nous donne cette force et qui nous donne de pouvoir porter du fruit. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire de vous-même. Vous ne pouvez rien faire de vous-même. Ce qui m'intéresse dans ce passage ici, c'est plusieurs choses. C'est que tu ne peux pas être un arbre planté près d'un courant d'eau, un arbre qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Tu ne peux pas être cette personne et tu ne peux pas en même temps être la personne qui marche selon le conseil des méchants, qui s'arrête sur la voie des pécheurs ou qui s'assied en compagnie des moqueurs. Et quand on parle des moqueurs, on parle aussi des critiqueurs. On ne peut pas être les deux personnes en même temps. Soit on est l'un, soit on est l'autre. Et c'est à chacun de faire son choix pour lui-même. Si tu veux être quelqu'un qui s'assoit avec des méchantes personnes, qui parle de mauvaises choses, qui complote, qui ont des attitudes, de l'orgueil, je ne sais quoi d'autre. Si tu es cette personne qui s'assoit avec les pécheurs, pas forcément en participant à ce qu'ils font. Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Lot. Vous connaissez tous Lot. Lot, il s'est séparé d'avec Abraham pour aller s'installer à Sodome. Et il était d'ailleurs une des autorités de la ville à Sodome. Il ne participait pas au péché de ces gens-là. La Bible dit qu'il tourmentait son cœur continuellement par rapport aux mauvaises actions. Donc il ne participait pas. Il n'était pas d'accord, mais pourtant il était au milieu d'eux. Il habitait Sodome. Il n'était pas d'accord avec ce que les gens faisaient,
mais
il était avec eux. Il s'asseyait avec eux. Il était une des autorités de la ville. Lot était un homme important à Sodome. Et qu'est-ce qui s'est passé? La ville a été détruite. Lui, il a été sauvé, c'est sûr. Mais la ville a été détruite. Et il a tout perdu. Il a tout perdu. Amen. Ici, on nous parle de deux personnes différentes. Et on parle de deux choix. Ne pas s'asseoir, ne pas marcher selon le conseil des méchants. Ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Vous savez, nous devons choisir d'une façon très minutieuse qui nous fréquentons, qui nous voulons fréquenter. Amen. Il y a parfois des fréquentations qui sont liées à la culture, liées à la famille. Et ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle des amis. Qui sont tes amis? Tes amis, tu les choisis. Et tes amis vont déterminer en bonne partie qui tu vas être. Si tu choisis de bons amis, de bonnes personnes, des gens qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu, qui marchent en soumission avec la parole de Dieu, en soumission aux autorités spirituelles, si tu choisis ce genre de personnes, tu plantes toi-même ta vie près d'un courant d'eau. Amen. Amen. Le courant d'eau, les lieux arides ne sont jamais le fruit du hasard. C'est le fruit de nos choix et de nos décisions. Celui qui ne choisit pas bien ses amis va vivre une vie aride, une vie desséchée, on va le voir un petit peu plus loin, une vie faite de haut et de bas, faite de déception, faite d'erreurs, faite d'échecs, de mauvais choix. Quand on regarde la vie de Job, on voit que Job était un homme qui a été extrêmement affecté par les circonstances. Mais c'était un homme qui aimait Dieu. Et quand ses amis sont venus le consoler, moi je loue le Seigneur de ne pas avoir des amis comme ça. Parce qu'au lieu de le consoler, ils l'ont enfoncé, ils l'ont accusé. Ils lui ont dit, mais Job, si tout ça t'arrive, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que tu l'as mérité. Ou d'autres choses même encore pires. Et à la fin d'ailleurs de l'histoire du livre de Job, on voit que Dieu est en colère contre les amis de Job. Choisissez maintenant. Choisissez maintenant, parce que ça va déterminer la suite. Est-ce qu'on peut tourner un peu ça? Merci. Ça va déterminer la suite de votre vie. Vous allez dire, mais les gens que je fréquente, mes amis, ne sont pas ceux qui vont déterminer ce que je vais être. Vous savez, il y a une influence qui vient de la part des hommes. Amen. Il y a vraiment une influence. Quand tu fréquentes des gens qui parlent mal, qui sont méchants, jaloux, critiques, qui ont des mauvais cœurs, même si tu es là, tu n'ouvres pas ta bouche, ça va faire quelque chose dans ta vie. Qui est d'accord avec ça? Amen, je vois que vous savez ces choses. Amen. D'un autre côté, celui qui se sépare de ces choses-là, et qui trouve son plaisir
dans
la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Là, on parle d'un autre niveau de vie. Amen. Parce qu'on peut bien choisir ses amis, mais ne pas être quelqu'un qui véritablement trouve son plaisir dans la parole de Dieu.
Vous
voyez, on a quitté une personne pour pouvoir étudier une autre personne. Mais se séparer des personnes qui sont de mauvaise influence, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la première étape. Et c'est une bonne étape. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, vraiment. Qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Comment lis-tu la parole de Dieu? Et ça, c'est la question qu'il faut se poser à soi-même, individuellement, à chacun. Est-ce que tu lis la parole de Dieu parce que tu n'as vraiment rien d'autre à faire? Donc tu te dis, je m'ennuie un peu, donc je vais lire la Bible. Peut-être que ça va me faire passer un moment agréable. Ou est-ce que tu lis la parole de Dieu parce que tu sais que tu te sens obligé? Vous savez, il y a des gens, parfois, ils se sentent obligés. Des gens qui ont un cœur religieux. Si je ne lis pas la Bible, Dieu ne va pas me bénir. Ils font ça comme un devoir, comme une obligation. Je lis deux chapitres. Seigneur, je lis deux chapitres. Et toi, tu vas répondre à deux de mes prières. Si je lis trois chapitres, c'est trois prières. Vous savez qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Ils se sentent obligés. Ou alors, c'est parce qu'ils s'ennuient. Ou alors, c'est pour dire, moi, quand même, je suis un chrétien, un bon chrétien. Donc, je vais lire la Bible parce que je suis obligé de le faire. Vous savez que toutes ces motivations, ce sont des mauvaises motivations. Quelle est ton approche de la parole? Est-ce que tu en as faim passionnément? Est-ce que quand tu la lis, tu as vraiment un désir ardent de découvrir quelque chose que tu n'as jamais remarqué, qui était là depuis toutes ces années, mais tu n'avais pas vraiment compris cela, tu n'avais pas vraiment vu. As-tu une relation passionnée avec la parole de Dieu? Ou n'as-tu aucune relation? Ou une relation comme ça, bon d'accord, le dimanche. Vous savez, parfois le dimanche on vient à l'église et il y a des personnes qui sont là, on ne les voit que le dimanche. Alors on est content de les voir, on se dit, tiens, c'est dimanche, bonjour, comment vas-tu? Et ça s'arrête là et il n'y a aucune relation. Et quand il n'y a aucune relation, que ce soit avec les personnes ou que ce soit surtout avec la parole de Dieu, il n'y aura aucun impact. Vous allez me dire, mais moi, la parole, la Bible, j'ai déjà lu. Je ne vais pas vous poser la question, mais je pourrais dire, qui a déjà lu toute la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse au moins une fois? Je vous dis le résultat du sondage. S'il y a 10 personnes qui lèvent la main, on aura de la chance. Et généralement, la deuxième question que je pose, mais je ne vais pas vous demander non plus de lever la main, si je dis, qui a déjà lu le Nouveau Testament entièrement depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse? Entièrement. Là, on va multiplier par 3, il y aura, j'ai dit 20 tout à l'heure,
10.
Là, on va multiplier, on va dire 20, on va dire 60.
Et
s'il y a 60, là, je vous assure que je suis en train de donner un chiffre par la foi. Ça montre quoi? Que la plupart des gens n'ont aucune relation avec la parole de Dieu, n'ont aucune passion pour la parole. Cette parole ne leur parle pas vraiment. Et de ce fait, ils ne la désirent pas vraiment. Il y en a d'autres qui peuvent dire, moi j'ai déjà lu la Bible. J'ai déjà lu le Nouveau Testament. Deux fois, trois fois, quatre fois. Maintenant j'ai l'impression de tout connaître par cœur. Alors si tu en es là, c'est que tu n'as pas la bonne approche du Nouveau Testament ou de la parole de Dieu d'une manière générale. Je me rappelle avoir lu dans un livre de Kenneth Hagin une époque où vraiment il était en train de chercher Dieu, il voulait des réponses, il avait des questions dans son cœur. Et il disait au Seigneur, mais j'ai déjà lu 150 fois le Nouveau Testament. Parce qu'il les avait même comptés les fois. Qui ici a déjà lu 150 fois le Nouveau Testament? Personne, bien sûr. Amen. Amen. Mais cette parole doit être ta priorité numéro un. Amen. La priorité numéro un, si tu veux vraiment être un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce qu'il est dit ici qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Vous savez, parfois on peut lire quelque chose dans la Bible et c'est bien d'y penser. Moi personnellement, récemment, j'ai relu toute l'histoire des rois. En fait, j'ai commencé à partir de Roboam et de Jéroboam.
Roboam,
c'était le roi de Juda. Jéroboam, roi d'Israël. J'ai commencé là et j'ai vraiment lu toute leur histoire dans le livre des rois et parallèlement dans le livre des chroniques. Et franchement, en lisant ces histoires de tous ces rois, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vécu, ça m'a donné vraiment envie de pleurer. Ça m'a vraiment touchée. Notamment un certain roi qui avait bien commencé avec Dieu. Il était suivi, il était encadré depuis son enfance par un prophète. Et quand il est devenu grand à ses yeux, il a rejeté cette aide qu'il avait reçue. Et il a été même jusqu'à tuer le fils de ce prophète Zacharie, ce fils qui s'appelait Zacharie, parce qu'il prophétisait sur le roi pour le ramener son cœur dans les voies de Dieu. Et quand on lit ces choses et on les prend à cœur, on y réfléchit nuit et jour. Amen. Nuit et jour. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, Seigneur, je t'en prie que pour moi, ces choses n'arrivent jamais. Parce que tant qu'on est petit, tant qu'on est inconnu, tant qu'on n'a rien accompli, c'est facile d'être humble. C'est facile de recevoir des conseils, des directions. Et quand je lisais la vie de tous ces hommes, la plupart d'entre eux, je ne vais pas dire tous, mais la plupart d'entre eux, avec le temps, ils se sont détournés de Dieu. Et certains n'ont jamais même marché avec Dieu. Et quand on lit ces choses, on peut y penser et vraiment méditer dessus. Malheureusement, il y a un monde spirituel qui nous entoure. Et dans ce monde spirituel qui nous entoure, nous savons bien sûr qu'il y a les anges,
il
y a le Saint-Esprit qui est là, Dieu le Père n'est pas là parce qu'il est au ciel, Jésus n'est pas là non plus parce qu'il est au ciel aussi, mais on sait qu'il y a le Saint-Esprit, qu'il y a tous les anges qui sont là, mais il y a aussi les mauvais esprits. Et je vous assure, frères et sœurs, si nous ne sommes pas des personnes qui méditons jour et nuit la parole de Dieu, nous allons être des personnes qui méditent jour et nuit sur toute la saleté et sur toute la pourriture que les mauvais esprits qui sont dans le monde spirituel viendront et nous faire comme ça. Regarde. Et toi, tu ne veux pas regarder, tu dis non. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Mais il dit, regarde, regarde. Et au bout d'un moment, tu dis, ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et tu commences à méditer sur des choses qu'il ne faut pas méditer. Si tu t'occupes de Dieu, tu t'occupes des affaires de ton Père, tu médites jour et nuit sa parole, il va s'occuper de tes propres affaires. Et quand le diable viendra en disant, regarde, il t'a fait ci, il t'a fait ça, la vie est difficile, le salaire est insuffisant, c'est la crise, les enfants sont insupportables, ils ne travaillent pas à l'école. Regarde, regarde. Si tu es quelqu'un qui médite la parole, tu pourras dire, je ne regarde pas. Je sais que ces choses sont vraies. Et quand on dit ne pas les regarder, ça ne veut pas dire les ignorer non plus. Amen. Mais ça veut dire, je ne fais pas de ces choses la priorité de ma méditation. C'est vrai que ces choses sont là. C'est vrai que ces choses sont dures. C'est vrai que je ne sais même pas vraiment quoi y faire. C'est vrai que c'est fatigant. Mais je choisis de faire la bonne chose. Comme Marie, assise aux pieds de Jésus. Elle aurait pu être comme Marc, comme Marthe, pardon. C'est dans Luc chapitre 10, verset 38 et suivant. Elle aurait pu choisir d'être comme Marthe. Courir à droite, courir à gauche, essuyer la table, balayer un petit peu, servir des verres d'eau ou je ne sais quoi. Non. Marie a choisi la bonne part. Et Jésus le dit. Jésus rend témoignage à Marie. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Lis la parole. Médite-la. Sois en relation avec cette parole. Amen. Sois en relation avec cette parole. Parce qu'elle va te confectionner, elle va te façonner, elle va t'édifier, elle va te faire grandir. Elle va te montrer des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Nous sommes de petites personnes. Amen. Nous sommes de petites personnes avec de petites pensées, de petites idées et de petits objectifs. Parce que nous sommes des êtres humains, mais nous avons un Dieu magnifique, immensément grand, qui a de grandes pensées, qui a une grande puissance, qui a une grande capacité et qui a de grands objectifs, qui veut rendre notre vie extrêmement intéressante. Voilà ce que nous pouvons trouver lorsque nous méditons la parole jour et nuit, au lieu de méditer sur les difficultés de la vie. Quand tu es cette personne, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il y a ici certaines personnes, vous avez l'impression que votre vie spirituelle est en train de perdre de l'altitude, est en train de, de se dessécher, de descendre de plus en plus bas, et vous ne savez pas comment relever. Vous ne savez pas comment relever votre vie. Et quand vous priez, il n'y a plus le même feu. Il n'y a plus le même amour. Il n'y a plus le même désir. Et vous savez, il y a bien des personnes, parfois des prédicateurs qui disent
«
Ah oui, le feu du premier amour est parti. » Alors qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ranime le don qui est en toi.
Vous
savez, quand Jésus parle, je ne sais plus à quelle église, je ne sais plus pas si c'est Pergame. Je ne sais plus vraiment à quelle église il parlait, et ça n'a pas vraiment une grande importance. Mais il va faire un reproche à une église. Il va lui dire « Tu es tiède. » Tu es tiède. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est Jésus qui dit cela.
Vous
pourrez regarder le message des églises. Ça commence Apocalypse chapitre 2 et ça se termine dans Apocalypse chapitre 3 et jusqu'au verset 20. Et Jésus fait des reproches. Il lui dit, parce que tu es tiède. Ça veut dire que nous ne sommes pas supposés nous refroidir. Pourquoi nous ne sommes pas supposés nous refroidir? Parce que ce que nous avons découvert lors de notre nouvelle naissance, c'est peu de choses. Amen. C'est peu de choses. Tu as découvert. Quand je dis peu de choses, comprenez-moi bien, ce n'est pas peu de choses. Tu as découvert que Jésus t'aime. Tu as découvert qu'il a pardonné tes péchés. Tu as découvert que tu as un Père. Mais ce n'est que le commencement du commencement du commencement par rapport à tout ce qu'il y a après. Après, par rapport à la dimension de la louange et de l'adoration. Quand tu commences, ça te fait crier. Pourquoi un an, deux ans, trois ans après, cinq ans après, ça ne te fait plus crier? Parce que tu ne t'es pas développé. Parce que tu n'as pas grandi dans ces choses. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 6, il y a ce passage où le prophète Ésaïe va avoir une vision de Dieu. Dieu qui est assis sur un trône très élevé et des anges qui tournent autour de ce trône. On va lire cela, Ésaïe chapitre 6. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée.
Ngo abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe umuserafi wese yarafise amababa atandatu abiri yayitwikiriza mu maso ayandi abiri yatwikiriza ibirenge yatwikiriza ibirenge yandabiri yarayagurukisha babarirana basemerera batu wera 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 ni uhoraho nyene ngabo isi yose yuzu icubayo cyane.
Les séraphins, ce sont des anges qui sont autour du trône de Dieu. Depuis qu'ils ont été créés, ils se tiennent autour du trône de Dieu. Ils ne sont pas en train de dire ça y est, on a fait le tour de la question, on sait qui est Dieu. On l'a déjà vu. Vous savez, quand on voit quelque chose d'extraordinaire, la première fois qu'on voit cette chose extraordinaire, on fait
ah,
n'est-ce pas? Parce que c'est une chose. Quand tu le revois la deuxième fois, tu fais ah oui, vraiment, c'est bien. Tu le revois une troisième fois. Tu dis oui, ok, j'ai déjà vu. Et après, tu t'habitues. Et tu n'y fais même plus attention. C'est comme ça pour les choses. C'est comme ça pour la nourriture. Tu manges quelque chose de nouveau, extraordinaire. Et si tu continues de le manger au bout d'un mois, tu n'y prêtes même plus attention. N'est-ce pas? C'est vrai pour les choses. C'est vrai pour les gens aussi. Parfois, quand on n'est pas capable ou quand on ne sait pas entretenir une relation, on s'y habitue et au bout d'un moment, on ne fait même plus attention. Et les anges, les séraphins, je ne sais pas depuis combien de temps ils ont été créés, mais ils sont toujours autour du trône de Dieu et ils ne sont pas fatigués. Vous savez, ils volaient peut-être avec beaucoup d'ardeur au début. Au bout d'un moment, bon, ok, on y va. Saint. Au début, c'était Saint. Et après, Saint. On a été créé pour dire Saint, alors. Saint. C'est pas comme ça. Parce que quand ils voient Dieu, et ils le voient continuellement, quand ils voient Dieu, ils sont tellement saisis par sa gloire, par sa magnificence, par sa splendeur, qu'ils se crient l'un à l'autre. T'as vu? Non, ils ne se crient pas ça. Ils ne peuvent même pas le faire. Saint est le Seigneur. Parce qu'ils sont saisis. Ils sont saisis par ce qu'ils voient. Ils sont saisis. Et le temps n'a rien changé à cela. Amen. Vous savez, ce passage de psaume nous montre vraiment, vraiment le chemin d'avoir, pour avoir une vie spirituelle épanouie, remplie de joie, être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen. Qui donne son fruit en sa saison. Je ne veux pas vous embarrasser, mais examinez vos vies. Quels sont les fruits que vous portez? Que vous portez véritablement. Non pas les fruits que vous pouvez prétendre porter, mais les vrais fruits, les fruits véritables, des fruits qui viennent de Dieu, des fruits qui glorifient le Seigneur. Quels fruits portez-vous? Êtes-vous des chrétiens stériles, des arbres tout rabougris, tout desséché, dont les branches sont comme ça? Ou êtes-vous des arbres verdoyants, plantés près d'un courant d'eau? Vous savez, le fait de porter du fruit vient de notre relation avec Dieu. Amen. Ça vient de notre relation avec Dieu et aussi avec sa parole. Parce qu'il est dit ici que tout ce qu'il fait, lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il ne fera rien en dehors de ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes, d'abord, qui ne prient pas. Seigneur, montre-moi ta volonté. Parce qu'ils n'ont pas envie de savoir. Ils ne veulent pas, ils n'osent pas le dire. Mais ils préfèrent ne pas prier, Seigneur, montre-moi ta volonté. Parce qu'ils se disent, tiens, finalement, si la volonté de Dieu ne correspond pas à ma volonté, alors je vais être malheureux. Ça, je veux le dénoncer maintenant. C'est un mensonge du diable. La seule chose qui pourra te rendre heureux, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu a une bonne volonté pour chacun d'entre nous. Amen. Et quand Dieu te dit « ne fais pas cela », ce n'est pas parce qu'il veut t'embêter, c'est qu'il sait les conséquences que ça va avoir dans le présent et dans l'avenir. Et quand Dieu dit « ne fais pas cela »,
ce
n'est pas pour t'embêter, ce n'est pas pour te faire de la peine, ce n'est pas pour te blesser, c'est parce que Dieu sait des choses que tu ne sais pas. Et quand il te dit « fais ça », vous savez, parfois Dieu nous dit de faire des choses et on n'a pas vraiment envie de le faire. À qui c'est arrivé? Les autres vous mentez. N'est-ce pas? Dieu nous dit parfois, fais ça, ou te montre une chose à faire, quelle qu'elle soit. Et puis au fond de ton cœur,
tu
n'as pas toujours envie. Et souvent, on n'a pas toujours envie. Quand il s'agit de rentrer dans certaines choses, en relation avec des personnes qui nous ont blessés, quand quelqu'un nous a blessés, on préfère faire comme ça. Je t'aime de loin. Je te pardonne. Mais reste où tu es, s'il te plaît. Tu m'as déjà fait assez mal, je n'ai pas envie que ça recommence. Et parfois, Dieu peut te dire, va trouver cette personne. Oh, il ne va pas te le dire avec une voix orale comme ça, mais tu le sais dans ton cœur. Va trouver cette personne. Pardonne-lui. Tends-lui la main. Aide-le. Et tu te dis, Seigneur, si tu le dis, je vais le faire. Mais tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Et bien souvent, on ne fait pas. On ignore. On fait comme si on n'a pas entendu. Vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, on passe à côté de quelque chose. Amen. On passe à côté de quelque chose. On passe à côté d'une bénédiction. Parce que l'homme qui obéit à Dieu est l'homme qui sera béni d'une double, d'une triple bénédiction. Parce qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé. Donc l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit est l'homme qui va réussir dans tout ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il fait sera inspiré et initié par le Seigneur. Quelqu'un qui vit dans cette relation avec la parole ne peut pas faire quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Il ne le peut pas parce qu'il ne le désire pas. Amen. Si vous avez encore personnellement, vous qui êtes ici, des désirs qui ne sont pas selon la parole de Dieu, eh bien, il est temps de venir dans ce courant d'eau. Et ces désirs, ils vont partir. Amen. Parce que nous ne vivons pas sous une loi. Nous vivons dans la grâce de Dieu. Allons dans Jérémie. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. On va étudier ce passage et la suite, nous le verrons ensemble la prochaine fois. Jérémie chapitre 17, verset 5. Jusqu'au verset 8. Là encore, on parle de deux hommes. Le premier homme dont on a parlé tout à l'heure, c'était l'homme qui a de mauvaises fréquentations, qui se permet d'avoir des fréquentations qui vont influencer négativement sa vie. D'ailleurs, il y a un proverbe en France qui n'est pas dans la Bible, mais qui est très bien quand même, qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » À bon entendeur, salut. Donc, il y a le premier homme qui a de mauvaises fréquentations et ça l'influence négativement. Maintenant, on va parler d'un homme qui s'appuie sur l'homme. Ça, le premier travers, on l'a vu. Maintenant, on va voir le deuxième. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Là encore, on voit deux hommes et on voit deux résultats. Amen. Dans le premier exemple, on a vu deux hommes avec deux résultats. On a celui qui a les mauvaises fréquentations et qui forcément ressemble aux personnes qu'il fréquente. Et là, c'est encore un autre cas de figure. L'homme qui se confie en l'homme. Qui peut me dire ici, j'ai jamais été déçu par un être humain? Je vois que personne lève la main. Donc, j'en conclus que personne ne ment cette fois. On a tous été déçus. Par notre papa, par notre maman, par nos frères et nos sœurs, par nos oncles et nos tantes, par les professeurs à l'école, par les patrons, par les amis, par tout le monde, chaque être humain que nous connaissons. Vous pouvez vous regarder et dire, si tu le connais, bien sûr, si tu le connais pas, tu peux lui dire, tu m'as déjà déçu. Vous pouvez le dire. Dis à quelqu'un, tu m'as déjà déçu. C'est normal, tu es un être humain. Amen. Ce ne sont pas des confessions. Parce que si ça avait été des confessions, j'aurais dit, tu m'as déjà déçu et tu me décevras encore. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est normal. C'est la réalité des choses de la vie. Mais pourtant, encore et encore et encore, tu te confies dans les hommes. Tu espères que les hommes vont faire telle et telle chose pour toi, qu'ils vont te donner telle et telle chose. Et pourquoi tu dois espérer ça? Pourquoi devrais-tu l'espérer? Qu'est-ce que te doivent les hommes? Ils ne te doivent rien du tout. S'ils font une chose, c'est parce qu'ils ont envie de la faire. Et s'ils ne la font pas, tu n'as rien à réclamer et tu n'as pas à te sentir déçu. Amen. Parce que quand on est déçu jusqu'à ce point, c'est qu'on a mis l'homme au même niveau que Dieu. Il y a trois caractéristiques ici. Il est misérable, il est malheureux et il est desséché. Dites avec moi, misérable, malheureux, desséché. C'est ce qui arrive quand on se confie dans l'homme. La parole de Dieu nous le dit clairement. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Par contre, pour l'homme qui se confie en Dieu, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ici, il n'est pas dit, il ne sera jamais, il ne verra jamais la chaleur. Ce n'est pas écrit comme ça. Il n'est pas dit, tu ne verras jamais la chaleur. Tu ne verras jamais la sécheresse. Ce n'est pas écrit comme ça. Il y a un autre passage d'Ésaïe qui dit, si tu passes au travers du feu, tu ne seras pas atteint. Le feu viendra. Et ici, on ne parle pas du feu du Saint-Esprit. On parle du feu de l'épreuve. On parle des difficultés. Dis à ton voisin, les difficultés viendront. D'autres viendront. Demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, ne t'inquiète pas, ça viendra. Lisons ensemble psaume 34. Parce que les difficultés peuvent venir, mais qu'elles te trouvent prêtes. Qu'elles te trouvent prêtes. Psaume 34, versets 18 à 20. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Abakiza amagogwa yabo yose uhoraho aba hafi yabafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse.
Quand tu te confies en Dieu, que tu prends le Seigneur pour appui, les choses viendront, mais elles vont te trouver sans crainte. Amen. Sans crainte. Si tu as de la crainte dans ton cœur, c'est que tu es pas suffisamment proche de ton Dieu. Amen. Si tu n'es pas suffisamment proche de Dieu, tu as de la crainte dans ton cœur. J'ai besoin de quelqu'un ici. Venez deux ou trois personnes ici. Allez, il y en a un qui fait Dieu, il y en a un qui fait le diable, et il y en a un qui fait l'homme. Comme t'es le premier, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi?
Dieu.
Ah. Et toi?
L'homme.
Ok, où est le diable? Désolé, Fortran. T'es pas venu assez vite, mais on sait que c'est seulement pour l'illustration. Donc, voyez, il y a trois personnes. Il y a Dieu. Approche-toi, Dieu.
Okay.
Pourquoi c'est toi le plus petit et le plus maigre? C'est pas grave, mais Dieu est grand et fort. Il y a l'homme. Viens ici, l'homme. Ok, le diable, excuse-moi, désolé. Mets-toi un peu par là. Et toi ici. Pourquoi? Mais il ne faut pas avoir les mains dans le dos. Donc on voit l'homme. Attends, on change, je vais le faire Dieu parce que tu es un peu petit pour eux. D'accord, hein? Mais c'est quand même bien d'être l'homme. Donc on voit l'homme et Dieu. L'homme qui se confie en Dieu. D'accord? Il se confie en Dieu. Le diable vient ici, il fait... Vas-y, fais comme ça. L'homme rigole. Pourquoi est-ce qu'il rigole? Parce qu'il est à côté de Dieu. Ça
ne
lui fait rien. Amen. Mais quand l'homme commence à penser à autre chose, par un peu là-bas, tu penses à autre chose. Et du fait que tu... Va faire la baffe là-bas. Là, voilà. Tu penses à autre chose. Tu commences à t'égarer. Les jolies filles. Je ne sais quoi d'autre. Et puis voilà. Dieu est toujours là. Mais tu n'es plus vraiment à côté de lui. Maintenant, le diable vient. Vas-y, fais... Là, tu commences à avoir peur. Il commence à avoir peur. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Merci les trois du groupe de louange. Vous pouvez retourner. Merci. Il commence à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Vous comprenez? Il s'est éloigné parce qu'il s'est laissé distraire par une chose, par une autre, par une personne. Mais celui qui s'appuie sur le Seigneur, il n'a pas de crainte dans l'année de la sécheresse. Vous savez que peut-être ici au Burundi, c'est pas trop comme ça. Mais en France, si vous voulez avoir de la crainte dans votre cœur, écoutez les informations, le journal télévisé. Commencez, et surtout, c'est toujours aux heures des repas, vous voyez. Alors les gens sont à table, ils allument la télé et ils dînent en regardant les informations. Ils commencent de bonne humeur, ils sont contents. Et quand ils arrivent à la dernière bouchée, ils n'arrivent plus à avaler. Parce que ce ne sont que des choses négatives, des choses effrayantes. Amen. Vous savez, nous vivons dans un monde effrayant, dans un monde négatif, dans un monde méchant, dans un monde difficile. Et ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, parce que vous le savez. Amen. Vous le savez. Vous le savez. Et quand vous êtes en train de vous focaliser sur ces choses, au lieu de vous focaliser sur Dieu, quand vous vous confiez en l'homme, oh, j'avais vraiment demandé à telle personne de m'aider à réaliser tel projet ou à faire telle autre chose. Je lui avais demandé de s'associer avec moi ou je lui avais demandé de me prêter de l'argent et il ne l'a pas fait. Et maintenant, on est dans la sécheresse. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais mourir. L'homme qui se confie en l'homme, quand la sécheresse arrive, il a de la crainte parce qu'il la voit arriver. Amen. Mais l'homme qui se confie en Dieu, vous savez, comme Isaac. Isaac, c'est dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Il est descendu. Il est descendu à Guédar. Il est descendu à Guérar. Et alors là, il y a eu une famine. Mais le verset 12 nous dit la chose suivante. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche.
Ngo maze Isaka abiba muri ico gihugu muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ibyo yabivye ingero jana uhoraho amuha umugisha uwo mugabo aba umutunzi agenda arushiriza gushitsa aho abereye umutunzi bihebuje.
L'homme qui se confie en Dieu,
wizigira uhoraho,
il n'aura aucune crainte.
Nta bwoba
agira. Vous savez, la pire des choses,
ikintu kibi cyane,
c'est de faire semblant de ne pas avoir peur quand on a peur.
Nukwigira ko nta bwoba ufise igihe by'ukuri ufise ubwoba.
Amen. Vous savez, il faut être honnête. Il faut être sincère avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut confesser ses craintes, parce que ça, ce n'est pas une bonne chose non plus. Mais si tu as de la crainte dans ton cœur, localise cette crainte et approche-toi davantage de Dieu. Et dis, je choisis de te faire confiance, Seigneur, même si je ne vois pas d'issue. Même si c'est quelque chose de difficile pour moi, je décide, je choisis de te faire confiance et fais ce genre de confession jusqu'à ce que la crainte s'en aille. Amen. Parce que faire semblant de ne pas avoir peur, c'est stupide. Amen. Mais nous devons arriver dans une position où nous n'avons peur de rien, où nous n'avons peur de personne. Amen. Amen. Si nous nous confions dans le Seigneur, celui qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux. Là encore, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter des fruits. Amen. Nous avons été créés pour porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est vraiment ce qui peut réjouir nos cœurs. Quand on voit qu'on porte du fruit, quand on voit que nous avons la faveur et l'approbation de Dieu. Vous savez, il n'y a rien de plus précieux que de sentir l'approbation de Dieu. On peut ne pas avoir l'approbation des hommes. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais ce n'est pas vraiment grave. Sauf si nous avons fait des mauvaises choses, bien sûr. Mais si nous n'avons rien à nous reprocher et que malgré cela, nous n'avons pas l'approbation des hommes, ce n'est pas très grave. L'approbation de Dieu. Choisis d'être la bonne personne. De te séparer de tout ce qui est mal et de surtout de toute influence dans ta vie. Choisis tes amis. Choisis les personnes avec lesquelles tu partages ton cœur. Choisis-les correctement. Amen. Et sois aussi quelqu'un qui ne te confie pas dans les hommes, qui n'attend pas quelque chose de la part des hommes, mais qui plutôt attend de Dieu. Médite sa parole. Fais de la parole de Dieu la joie de ton cœur et que tu sois quelqu'un qui ne peut pas attendre de rentrer chez toi et de prendre la Bible et te dire, j'ai envie de lire quelque chose parce que je sais que j'ai besoin de ça et que Dieu va me parler. Amen. Va prier tous ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous enseignes à devenir ces personnes plantées près d'un courant d'eau qui méditent ta parole, qui se séparent de tout ce qui est négatif, de tout ce qui peut mal influencer nos vies. Seigneur, nous voulons être ces personnes qui aiment ta parole, qui la méditent jour et nuit. Nous voulons être ces personnes qui se confient en toi, qui te voient, qui ne se lassent pas de toi, qui ne se fatiguent pas, mais qui se réjouissent, qui sont tellement admiratifs devant toi. Ranime dans le cœur de chaque personne ce premier amour, afin qu'il devienne plus grand que le premier amour, parce qu'ils vont découvrir, connaître davantage de toi, de ta personne, de ta vie. Oui, je te prie, que cette église soit en feu pour toi, que chacun marche comme il le doit, oui, que chacun marche comme il le doit pour la gloire de ton nom. C'est mon objectif, de voir un peuple qui te sert de tout son cœur. Peut-être tu es venu.